Radio Okapi.
Le journal. Jocelyne Moussopondé à la présentation.
Face aux agressions répétées, la plateforme de la jeunesse Nouvelle Génération Congolaise appelle le président Tshisekedi à mobiliser tous les Congolais, majorité comme opposition, pour la défense de la patrie. À Mbujimayi, la rareté du maïs fait grimper le prix de la mesurette de 3,5 kg, désormais vendu entre 4 500 et 5 000 francs congolais contre 3 500 la semaine dernière. L'invité de la rédaction ce matin est l'abbé Jean-Pierre Badidike, secrétaire général de l'ACEAC. Il revient sur la 15e assemblée plénière de cette structure catholique régionale axée sur la construction de la paix et l'accompagnement psychologique des victimes d'abus. Bonjour à tous. D'abord cette nouvelle. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est arrivé hier dimanche à Luanda pour une visite de travail consacrée à la relance du processus de Luanda, une initiative diplomatique visant à restaurer la paix dans l'est de la RDC. Selon Le Potentiel, cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un sommet tripartite réunissant Félix Tshisekedi, le président angolais João Lourenço et son homologue rwandais Paul Kagame. L'objectif et de renforcer les efforts de médiation régionale face à la persistance des violences dans le Nord Kivu, notamment celles liées au groupe armé M23. Les discussions s'annoncent ardues, souligne le journal. Kinshasa insiste pour que toute solution soit négociée avec le gouvernement rwandais et non directement avec le M23 afin de garantir une approche institutionnelle et durable. Le président Lourenço, en sa qualité de médiateur, entend relancer les engagements pris lors des précédentes rencontres et favoriser un dialogue constructif entre les parti. À Kinshasa, au même moment, la plateforme de la jeunesse Nouvelle Génération Congolaise appelle le président de la République à mobiliser le peuple congolais dans son ensemble, au-delà des clivages majorité-opposition, pour la défense de la patrie en danger devant les agressions à répétition. C'est ce qu'a déclaré hier dimanche à Kinshasa devant la presse le coordonnateur de cette structure. Mukenge Totoro rappelle que la solution à la crise congolaise repose avant tout sur les Congolais eux-mêmes et plus particulièrement à sa nouvelle génération. Ces propos ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
La chute de la ville d'Uvira et la détérioration continue de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo constituent un signal d'alarme grave. Ces événements démontrent une fois de plus les limites profondes des choix politiques, diplomatiques et sécuritaires opérés jusqu'à ces jours pour garantir l'intégrité territoriale et la protection effective de nos populations congolaises. Il est désormais évident que compter principalement sur des partenaires extérieurs, sur des accords diplomatiques ou sur des simples condamnations internationales ou même nationales pour défendre nos frontières a montré toutes ses limites. Comment expliquer que le gouvernement et la classe politique continue de responsabiliser des acteurs extérieurs face à leurs propres responsabilités et échecs à protéger les populations et les territoires nationaux? Comment comprendre qu'un État en guerre mise davantage sur des condamnations diplomatiques au lieu de se donner les moyens de vaincre l'ennemi sur le terrain?
La coalition nationale des volontaires pour la défense de la patrie, VDP Wazalendo, a une nouvelle direction exécutive nationale depuis samedi. C'est à l'issue d'une assemblée générale tenue à Kinshasa, réunissant des représentants des Wazalendo venus de plusieurs provinces. Au terme des élections organisées dans cette rencontre, le professeur Dadi Salé Emmanuel a été élu directeur exécutif national de cette structure qui rassemble plusieurs groupes d'autodéfense engagés aux côtés de l'armée nationale. Pour le professeur Dadi Salé, cette élection marque une étape très importante dans la structuration et la coordination de cette force citoyenne. On l'écoute.
C'est pour une première fois que nous puissions avoir une coalition nationale de VDP Wazalendo parce qu'une lutte divisée a difficile à réussir. Là, nous venons de réussir quelque chose. Il y a certes des imperfections, mais nous sommes convaincus qu'ensemble, nous allons tout faire pour essayer d'arranger les imperfections qu'il y a eu. Parce qu'une inclusivité totale n'est pas une évidence. C'est très difficile et très compliqué. Parce qu'avec plus de 200 groupes, vous comprenez que l'unanimité est très compliquée. Nous ne sommes là que pour défendre notre nation. La tâche que vous venez de nous donner va demander non seulement en priorité que nous puissions être capables de mieux nous organiser à l'interne. Là, il s'agit d'une matière interne de VDP. Parce qu'on a tellement de chefs, de généraux et on a des groupes politiques, il faudra que ça soit cadré vers un seul objectif. Sinon, ça donnerait du poids à l'ennemi.
Notez que le député Willy Michi, qui occupe la fonction de président du conseil d'administration de cette coalition nationale, le reste du directoire est composé des différents responsables des groupes d'autodéfense actuellement opérationnels sur le territoire national. Quel que soit le degré des violences et des conflits, la paix reste possible. Ce message est celui lancé hier dimanche à Kinshasa par le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa. C'était lors de la clôture de la 15e assemblée plénière de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, une structure de l'Église catholique regroupant les évêques du Burundi, de la RDC et du Rwanda, œuvrant pour la paix et le développement social. Pour lui, la construction de la paix exige la persévérance, la vigilance et la confiance. Le cardinal Ambongo appelle la population des zones occupées à ne pas céder à la haine. Il le dit dans cet extrait choisi par Blaise Makassi.
Nous avons tenu cette 15e assemblée dans un contexte d'aggravation dramatique des violences en République démocratique du Congo. La chute récente de la ville d'Uvira a causé plusieurs morts et accentuer la crise humanitaire. Face à cette escalade de violence, l'Église ne peut ni se taire, ni se résigner. Quel que soit le degré de violence et de conflit, la paix reste possible. C'est fort de cette espérance, comme pasteur, que nous avons aussi l'obligation d'activer tous les leviers capables d'aider ceux et celles qui ont la responsabilité de gouverner nos peuples à agir afin que la paix revienne dans notre sous-région des Grands Lacs.
Et puis notez que Alliance pour le changement confirme la tenue de sa marche pacifique prévue ce lundi 15 décembre à Kinshasa pour réclamer la cessation de la guerre dans l'Est, le retour du vivre ensemble, l'unité du pays et la défense de l'intégrité territoriale. On écoute à ces sujets Jean-Martin Moukonkolé, secrétaire général adjoint et porte-parole du parti politique Alliance pour le changement.
Dans le cadre de la marche proclamée par l'Alliance pour le changement, les partis chers à l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabunda, nous confirmons que le 15 décembre 2025, la marche elle est maintenue et nous invitons notre population à pouvoir se mobiliser pour se retrouver dans la rue, enfin, de réclamer la paix qui doit exister sur l'étendue nationale et pour que nous puissions mettre fin à ces actes d'atrocité qui se passent au niveau de l'est de notre pays.
À propos de cette marche, sachez que Eli Luba Kaloé, directeur de cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa, à travers une correspondance datant du 11 décembre 2025 et dont une copie est parvenue à Radio Okapi, a indiqué que l'itinéraire choisi est compris dans la zone interdite aux marches, suivant l'arrêté du 30 septembre 2021 portant interdiction des manifestations publiques dans certaines zones de la ville de Kinshasa. Dans un autre document daté du 13 décembre 2025 et signé toujours par Eli Luba Kaloé, l'autorité urbaine lance un message à la population par rapport à une prétendue journée ville morte et tient à rappeler que nul n'a le droit de manipuler ni perturber la population, l'incitant à cesser ses activités quotidiennes en dehors des décisions légalement prises par les institutions habilitées de la République. La ville appelle chaque citoyenne et citoyen au calme, à la vigilance et au respect de l'ordre public tout en poursuivant librement ses activités sur toute l'étendue de la capitale. Rendons-nous à présent au Maniema, où l'UNICEF s'engage à accompagner 932 villages des zones de santé de Kasongo, Kibombo, Lusangi et Pangi avec une enveloppe de plus de 335 000 dollars américains. Cet appui, c'est pour la réalisation des activités génératrices de revenus dans le cadre du projet Santé communautaire qui est exécuté par le réseau des médias pour le développement REMED. Selon Parfait Moani, chef de SACO Maniema, ce fonds vise l'autonomisation et le développement des communautés vivant dans les zones rurales à travers les relais communautaires promotionnels. On écoute à ces sujets Parfait Moani au micro de Florence Kizalunga.
Ces projets visent l'autonomisation des communautés. Ces projets visent à rendre suffisamment responsables les communautés pour qu'elles deviennent résilientes à tout ce qui concerne leur bien-être et leur santé. Le CAC qui va bénéficier de ces AGR, c'est 932 dans les 4 régions. Et chaque CAC aura autour de 360 dollars. C'est vraiment beaucoup d'argent que le gouvernement congolais a mobilisé, que le partenaire UNICEF a rendu disponible pour essayer de travailler sur l'autonomisation des communautés. Et donc, nous avons intérêt à faire en sorte que ces projets réussissent. Si nous continuons à nous approprier, mais aussi à pérenniser les acquis de ces projets, nos communautés seront autonomes, nos communautés pourront davantage se développer. Ça, c'est l'argent de la communauté, donc c'est pas l'argent à se partager, ça va nous permettre pour certaines CAC de faire l'élevage, et après on peut distribuer à deux ou trois personnes le lendemain, et les autres là peuvent encore donner aux autres, jusqu'à ce qu'on sera sûr en tout cas qu'on est en train de rendre réellement la communauté autonome et responsable de son bien-être.
Et en Mbujimayi, je l'ai dit dans le titre, hausse du prix de la mesurette de maïs sur le marché de Mbujimayi au Kasaï oriental. La mesurette de 3,5 kg connaît une augmentation de prix à la suite de la rareté du produit sur le marché. Elle se vend actuellement à 4 500 francs congolais contre 3 500 francs il y a une semaine. Selon les femmes commerçantes, cette situation s'explique par le fait que plusieurs opérateurs économiques ayant changé d'activité après une période de surabondance du marché du maïs sur les marchés, maïs produit par le service national à Kanyama KCC. Explication externe de la FINA.
Le maïs est un aliment de base pour la province du Kasaï oriental. La mesurette de 3,5 kg se négocie entre 4 000 et 5 000 francs congolais. Cette denrée devient de plus en plus rare sur le marché. Comment explique-t-on cette hausse?
La semaine dernière, il y a eu abondance de maïs sur le marché. Mais comme le maïs de Kanyama KCC était vendu à un bon prix, alors les gens couraient toujours pour acheter ces maïs là-bas, ne sachant pas que les stocks devaient s'épuiser. Maintenant, aujourd'hui, il y a carence sur le marché.
Au niveau de la ville, 5 dépôts de maïs de Kanyama KCC sont toujours ravitaillés pour être vendus. Les sacs de 50 kg coûtent 50 000 francs congolais. Sur place, il est actuellement difficile de se procurer cette denrée alimentaire. Témoignage.
Il n'y a pas les maïs sur les marchés. Ils sont venus même chercher pour Kanyama KCC. Il y a plein de monde ici. Il y a aussi des maïs sur les marchés. Ça fait 3 jours que nous venons sans acheter même un sac de maïs. Ils ne savent pas comment on va vivre avec les enfants.
Mais voilà que tous les acheteurs n'ont pas les mêmes chances. Certains sont déçus à cause de la qualité.
J'ai acheté 3 sacs de maïs. 2 sont pourris et un seul seulement est bon. J'attends ici pour les changer.
D'après certains observateurs, la province doit adopter une politique interne d'approvisionnement en maïs pour sa population. Esther Dalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Direction le Congo central, les enseignants du primaire de la ville de Matadi menacent d'aller en grève à cause de la rupture depuis le mois de mars dernier de leur prime de la gratuité de l'enseignement par le gouvernement provincial du Congo central. Dans une déclaration issue de la réunion générale centrée notamment sur l'évaluation de leurs conditions socio-professionnelles et des arriérés de 8 mois de cette prime provinciale d'appui à la gratuité tenue jeudi à Matadi, ces professionnels de la CRE ont dénoncé l'inaction du gouvernement provincial et le statu quo dans la gestion des engagements pris. Ils ont également souligné l'injustice dans la répartition des frais scolaires au secondaire au détriment des nouvelles unités et des écoles les plus reculées. Isaac Lukombo Malanda, porte-parole adjoint de la synergie des syndicats des enseignants du Congo central, et parle ici au micro de Nana Purishmambu.
La rupture de la prime provinciale qui est un élément qui appuie la gratuité voulue par le président de la République est en train de déranger les enseignants. Parce que selon le gouvernement national, il faudrait qu'il y ait la qualité de l'enseignement. On ne peut pas avoir une qualité de l'enseignement lorsque celui qui est censé de créer cette qualité n'est pas mis dans des conditions de qualité. Le gouvernement provincial avait pris de lui-même la volonté de pouvoir soutenir la gratuité de l'enseignement telle que voulue par le président de la République. Et l'autorité budgétaire en a consenti et a mis le moyen à l'autorité provinciale. Mais il se fait malheureusement. Depuis le mois de mars, les enseignants constatent une rupture de cette prime alors que l'autorité budgétaire mensuellement continue à mettre à la disposition du gouvernement provincial cette masse d'argent. Et donc cette argent aujourd'hui est un droit pour l'enseignant. Et donc, le gouvernement provincial a manifesté sa mauvaise volonté de pouvoir payer cet argent. Si le gouvernement provincial ne prend pas des dispositions de pouvoir reprendre à payer cet argent, à la première rentrée de Noël, il y a des actions de grande envergure qui seront prises.
Actualité internationale.
Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se sont retrouvés hier dimanche à Abuja, au Nigeria. Le sommet s'est achevé. Dans la soirée, les dirigeants ouest-africains ont condamné le coup d'État avorté au Bénin et surtout le putsch en Guinée-Bissau. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont rejeté le programme de transition proposé par la junte militaire de Bissau.
L'invité
de la rédaction ce matin est l'abbé Jean-Pierre Badidike, secrétaire général de l'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale, ACEAC en sigle. Il revient sur la 15e assemblée plénière de cette structure de l'Église catholique, regroupant les évêques du Burundi, de la RDC et du Rwanda, œuvrant pour la paix et le développement social. Pour cette session, les réflexions ont tourné autour du thème « Construction de la paix et accompagnement psychologique des victimes d'abus ». L'abbé Jean-Pierre Badidike s'entretient avec Blaise Makassinandès.
Monsieur l'abbé Jean-Pierre Badidike, bonjour. Vous venez de clôturer la 18e Assemblée Générale de l'Association des Conférences Épiscopales de l'Afrique centrale. Quel est le message essentiel que l'on doit retenir à l'issue de cette Assemblée plénière?
C'est un message qui s'inscrit donc à l'occasion de la 15e Assemblée plénière de la CEAC. Les évêques qui en sont membres ont préféré adresser un message sur la paix. Depuis 2013, ça s'est raffirmé en 2015 et puis repris en 2021. Les évêques se sont inscrits dans une campagne pour la paix au Grand Lac. Cette paix qui est devenue une option préférentielle de leur apostolat et de leur pastoral devrait se traduire par des actes divers. Alors cette assemblée plénière, qui est d'ailleurs statutaire parce que l'assemblée plénière au sein de la CEAC se tient tous les 3 ans. Donc cette assemblée plénière devait accéder à des analyses faites par des experts pour qui cherchaient à conseiller les évêques sur les voies et moyens d'assumer leur pastorale pour la paix. Donc le message, c'était la paix.
L'assemblée plénière de la CAC se clôture alors que la ville de Vira s'ajoute aux villes occupées. Quel message lancez-vous aux fidèles et personnes de bonne volonté vivant dans cette partie?
Pendant que l'assemblée était déjà prévue, les conflits, l'insécurité, le manque de cohésion se sont amplifiés au sein de la sous-région, notamment avec tout ce qui s'est passé dans les territoires de l'Est de ces derniers jours. Alors, ils ont quand même maintenu leur assemblée et qui portait déjà comme thème la construction de la paix dans la région des Grands Lacs. Pour ce qui est de quelques points qui ont assuré l'articulation du message, il y a d'abord le fait qu'ils ont condamné fermement les derniers bombardements sur la ville d'Ouvira et ses territoires avoisinants. Ils se sont montrés solidaires avec les victimes, dont les morts, les blessés, les déplacés et les réfugiés. Deuxième articulation de ce message, c'était d'adresser quelques mots, quelques paroles à 3 catégories de personnes, aux gouvernants, aux partenaires internationaux et à notre peuple. Pour ce qui est des gouvernants, on leur a demandé de faire en sorte que si réellement ils ont reçu la sagesse, ainsi comme science, de la part de Dieu et qu'ils auront reçu le pouvoir venant du peuple, que ce peuple devienne le pivot, le focus principal de leur action. Et par conséquent, ils doivent penser à assurer la sécurité et l'insertion socio-économique de tous ceux qui se sont retrouvés dans des situations de détresse dans les différents territoires et surtout dégager des corridors humanitaires pouvant faciliter l'acheminement de l'aide à ceux qui en ont besoin et je vous assure qu'ils sont nombreux. Ils ont aussi demandé qu'ils créent une empathie avec les populations, notamment les forces vives, afin de promouvoir les voies de dialogue chacun dans son pays. Partenaires internationaux, ils ont demandé qu'ils contrecarrent toutes les personnes qui tirent les ficelles dans cette cacophonie parce qu'ils en tirent, elles en tirent du profit quand il y a chaos. Et ces personnes profitent de ce qui se passe dans nos pays et sont des fauteurs à nos troubles et ils opèrent dans l'ombre. Alors, à notre population, on demande de ne pas tomber dans le piège de la résignation, de la révolte ou de la spirale de la violence et de la haine. Ça peut être un piège pour qu'on continue à dire les communautés ne s'entendent pas. Ça redevient un problème communautaire. Là, c'est principalement un problème économique et d'enjeux des minéraux critiques.
Quels sont les mécanismes que l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale met en place pour la restauration de la paix dans la région des Grands Lacs?
Les évêques, au cours de leur discussion, ils ont promu un programme triennal pour la paix. Donc pendant 3 ans, il y a des actions prioritaires qui seront menées de façon pratique afin de faire asseoir les chances de la paix, vulgariser les messages en allant dans le sens de la cohésion, de la cohabitation, de l'édification et de la construction de la paix dans notre sous-région des Grands Lacs.
Monsieur l'abbé Jean-Pierre Badiliké, merci.
Et c'est par ici que prend fin ce journal qui a été coordonné par Jude de Mystère Bilanda, Dieudonné Nyangassa, la mise en onde. Merci de l'avoir suivi.